nous reconnaissons que cette parole est la base de notre vie, que cette parole, Seigneur, est celle que nous voulons comme fondement pour notre existence, fondement dans nos décisions, fondement, Seigneur, dans nos pensées, fondement dans nos paroles, fondement dans nos actions. Alors je prie, Seigneur, que tu puisses répandre sur nous ce que tu as préparé de toute éternité pour nous. Que chacun d'entre nous puissions être de bons réceptacles à ta parole, l'acceptant telle qu'elle est, que nous l'acceptions plutôt, Seigneur, peu importe là où elle veut aller, peu importe le travail qu'elle veut accomplir dans nos vies. Nous nous soumettons à cette parole. Nous la déclarons vraie, nous la déclarons toujours active encore aujourd'hui, et nous la déclarons active pour l'éternité, celle qui d'éternité en éternité est la pure, la simple et la parfaite vérité. Alors répands sur nous effectivement ta bénédiction ce matin, que ta grâce nous soit accordée. Nous t'avons prié dans le précieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous dans Éphésiens 5, du verset 15 à 17. Éphésiens 5, 15 à 17. Et après ça, je relirai une deuxième fois le verset 16 qui nous sert de réflexion ce matin. Donc, Éphésiens 5, 15 nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et le verset 16 qu'on répète, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Alors que le Seigneur puisse une fois de plus bénir sa parole ce matin. J'agrandis un peu mes notes pour pouvoir m'y référer plus facilement. Voilà. Hier, on a parlé sur l'importance de notre attitude par rapport à la parole que nous recevons. Et c'est un peu la thématique pour l'ensemble de cette semaine. Et lorsque je parle de... Lorsque je parle de la parole reçue, je ne parle pas de nos études personnelles, je ne parle pas de notre lecture personnelle, je ne parle pas de notre temps de dévotion personnelle, mais je parle vraiment de la nourriture que nous recevons en tant que peuple de Dieu et celle que nous recevons essentiellement au sein de la famille. Je dis régulièrement qu'on s'alimente au restaurant, mais on mange à la maison. On se nourrit à la maison. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je veux dire que le restaurant n'est pas la norme ou ne devrait pas être la norme. La norme sur notre hygiène alimentaire, sur notre hygiène de vie, devrait se passer à la maison. Donc l'importance de ton alimentation spirituelle ou ce qui représente la partie majeure de ta nourriture spirituelle devrait être celle que nous recevons à la maison. Un peu comme l'enfant qui grandit auprès de ses parents et dont les parents choisissent le menu pour cet enfant. Si à un moment donné, on se rend compte, selon des examens, parce qu'il y a eu maladie, mal-être ou autre, que le médecin dit « bon, mais cet enfant, il lui manque du fer », donc on va donner à cet enfant, on va ajuster la nourriture pour cet enfant en rajoutant peut-être des abats tels que du foie, en rajoutant peut-être des épinards ou des choses comme ça qui permettent un apport plus majeur, plus important de fer. Au niveau spirituel, notre nourriture principale vient effectivement de la parole de Dieu. Mais si on voulait en décrire un peu plus la source ou en être un peu plus précis quant à la source, la nourriture que nous avons en tant que famille, l'hygiène alimentaire, à laquelle nous sommes soumis au niveau familial, au niveau spirituel, au niveau de groupe, c'est au niveau de l'Église. Donc lorsque je parle de la parole reçue ici, je suis en train de parler de la parole que Dieu nous donne à travers les prédications qui sont données au sein de la congrégation. Et voilà pourquoi il est tellement important, même et peut-être de surcroît, en cette période de pandémie où on est maintenus les uns loin des autres et où il est si facile d'aller se nourrir au restaurant spirituellement, surtout avec Facebook, on peut à peu près écouter n'importe quoi. Internet nous permet d'avoir une multitude de prédicateurs et de prédications qui sont bonnes en soi, mais qui ne correspondent pas nécessairement à la nourriture que Dieu veut pour nous en tant que famille. Donc l'importance que nous accordons cette semaine à la prédication qui est faite dans nos rassemblements, dans nos assemblées. Et hier, on a vu certaines facettes, certaines choses que la parole que nous recevons devait susciter chez nous. Tout d'abord, une réaction. Tout d'abord, une incidence. On ne devrait pas être capable d'écouter la parole de Dieu et de ne pas être transformé par celle-ci. On ne devrait pas écouter la parole de Dieu et maintenir une même vie. On devrait être des auditeurs de la parole de Dieu, puis l'ayant reçu, l'ayant embrassé, l'ayant accepté comme importante pour nous, elle devrait susciter chez nous des transformations et des changements. Et là, on tombe au verset 16 qui nous dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Et on va voir ce verset-là toujours relié avec la parole reçue. « Rachetez le temps ». Le terme « racheter », c'est le terme grec, pour ceux qui prennent des notes, j'épelle pour vous, « exagorazo ».« Exagorazo ». Donc « E-X-A-G-O-R-A-Z-O ». Je répète, exagorazo, E-X-A-G-O-R-A-Z-O. Je répète, E-X-A-G-O-R-A-Z-O. Qui veut dire récupérer pour, ou payer pour récupérer la gouvernance d'une chose. C'est un peu ce que Jésus a fait lorsque il nous a rachetés. Il a payé de sa vie, il a payé de son corps, brisé, il a payé de son sang versé pour nous racheter, pour réobtenir la gouvernance sur nos vies. Et là, il va dire racheter le temps. Donc, payer pour récupérer la gouvernance du temps. La parole de Dieu devrait nous amener à récupérer la gouvernance du temps. Lorsque je reçois la parole de Dieu et lorsque je l'applique, celle-ci a comme effet que nous puissions regérer le temps adéquatement. C'est tellement intéressant de savoir que la notion du temps, bien que Dieu soit éternel et que pour lui il n'y a pas de circonstances qui se poursuivent dans le temps, puisque l'éternité est sans passé, sans futur, sans présent, c'est un état perpétuel éternel. Mais la notion du temps, Dieu sait qu'elle est importante pour nous en tant qu'humains. Nous sommes sujets au temps. Et la Bible nous demande, lorsqu'il dit racheter le temps, de devenir maître du temps. Donc la question pour toi, est-ce que tu gouvernes ton temps? Est-ce que tu diriges ton temps ou c'est ton temps qui te dirige? Régulièrement, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est plus le temps qui nous conduit que nous qui dominons sur le temps. Une façon de dominer sur le temps, c'est d'accorder à Dieu le temps qui est adéquat. Vous savez, parfois on sait qu'une saison va être demandante, va être exigeante, et régulièrement ce qu'on y fait dans cette période-là, c'est qu'on essaie de faire au maximum, un maximum de choses comme si on restait identique. Certaines personnes vont essayer de tout simplement regreffer ou rajouter à leur journée une nouvelle chose. Et ils font qu'additionner des activités sur des activités sur des activités sur des activités. À un moment donné, il suffoque tellement l'horaire est chargé. J'ai pris une bonne habitude il y a déjà plusieurs années, lorsqu'à un moment donné, je savais qu'il y aurait une saison qui serait demandante. Si je me rappelle bien, c'était à l'époque où mon beau-père est tombé malade. Et il a été malade pendant une période d'environ 2 ans. Et je savais que cette période-là, qui commençait, serait exigeante. Et ce que j'ai fait comme, ou ce que j'ai pris comme décision à ce moment-là, c'était de ne pas décroître chacune de mes activités pour être capable de rajouter les besoins ou les charges qui venaient avec la maladie de mon beau-père. Mais ce que je faisais à la place, c'était de m'assurer de donner encore plus de place à Dieu dans mon temps de dévotion personnelle, parce que je savais que c'était de cela, de ce temps particulier, que découleraient toutes mes forces et toute mon habileté à gérer la pression qui pouvait venir de par les différentes activités qui s'ajoutaient. J'étais à l'époque assistant pasteur, il y avait de nouvelles charges, on était dans des préparatifs, des transformations au niveau de la structure de l'Église. Donc je savais qu'il y avait tout un tas de choses qui s'amalgamaient dans une période. Et ce que je me suis dit, c'est que ce que j'ai besoin, c'est pas plus de sommeil. Ce que j'ai besoin, c'est pas plus de temps dans une journée. Ce que j'ai besoin, c'est plus de Jésus dans cette journée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu davantage, j'ai prié davantage, j'ai jeûné davantage. Et ça, ça m'a permis, et ça m'a donné une bonne habitude par la suite, ça m'a permis de gérer mieux toutes les choses qui venaient devant moi. Et depuis lors, c'est une pratique courante chez moi. Lorsque je sais qu'on va rentrer dans une saison qui est exigeante, la première chose que je fais, j'adapte mon temps de dévotion personnelle, j'adapte mon temps de lecture et d'étude de la parole de Dieu, j'adapte mon temps où j'entends des prédications de par notre Église et de par notre assemblée, où je me nourris davantage, tout simplement parce que je sais que c'est de là que je tire tout ce que j'ai besoin pour mener à bien cette journée ou cette période. Donc, pour toi actuellement, si tu es dans une période qui est chargée, si tu es dans une période qui est exigeante et demandante, est-ce que tu as effectivement récupéré la gouvernance de ton temps ou tu es bousculé par ton temps? Est-ce que tu as coupé sur certaines choses pour accorder à Dieu plus de temps parce que tu sais que c'est salutaire et important? Ou tout simplement, tu as juste rajouté X nombre de sujets, X nombre d'activités dans ta journée qui font que l'ensemble de tes activités, dont ton temps avec le Seigneur, est raccourci parce que tu as rajouté 1, 2, 15 activités supplémentaires. Alors, est-ce que tu as accordé plus de temps à Dieu ou tu as diminué ce temps à cause de l'exigence du moment présent? La deuxième chose que la parole reçue lors des prédications doit amener, c'est que cette parole doit amener à une meilleure gestion du temps. Il va dire « racheter le temps ». Et lorsqu'on dit de racheter le temps, il y a non seulement la notion de récupérer la gouvernance sur le temps, mais il y a aussi cette notion de faire sage et sacré usage de toute opportunité. Lorsqu'on parlait de récupérer le temps, ce n'était pas nécessairement une expression qui n'était pas commune. Dans le Nouveau Testament, juste cette expression va revenir 3 ou 4 fois où ça va être mentionné de racheter le temps. Donc, c'était une expression assez usuelle dans l'époque où la parole de Dieu a été écrite, en tout cas dans l'époque du Nouveau Testament. Et cette notion de racheter le temps voulait dire de faire un usage qui était sage, donc réfléchi, donc bien pensé, et un usage qui était sacré, un usage qui était comme béni de Dieu, approuvé de Dieu avec un sceau d'approbation qui était mis sur ton horaire. C'est comme si tu avais ton agenda devant toi et sur chaque page, Dieu devait sceller avec un sceau d'approbation. Donc, est-ce que Dieu est capable effectivement d'approuver ta gestion du temps. Lorsque le Seigneur regarde comment tu occupes ta journée, est-ce qu'il peut dire qu'effectivement, tu as bien occupé ta journée? Et bien occuper la journée, ça veut dire occuper la journée en sachant ce qui est important aux yeux de Dieu. Et Dieu n'est pas cet abuseur que parfois le diable veut nous dépeindre, n'est pas celui-là qui fait en sorte d'oublier que nous avons des enfants, que nous avons un conjoint ou une conjointe, que nous avons un travail aussi à rendre. Il nous a dit que l'homme vivrait à la sueur de son front, que l'homme mangerait à la sueur de son front. Donc, il est donc normal dans la pensée de Dieu que nous puissions et que nous devions travailler. Donc, il n'est pas là en disant « abandonne ton boulot pour te consacrer à moi ». Il le fait dans certains cas, il l'a fait dans mon cas, il le fait dans le cas de certaines personnes qui travaillent à temps plein pour l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas un cas qui est commun et ce n'est pas un cas qui est là pour tous. Et dans la vie du commun des mortels, Dieu s'attend effectivement qu'il y ait une partie de la journée qui soit consacrée au travail. Mais même dans cette consécration au travail, ce temps-là peut aussi être mis de l'avant pour servir Dieu. Alors, la parole de Dieu devrait nous amener à réorienter nos priorités. Et lorsque je réoriente mes priorités, mon temps s'en voit aussi affecté. Alors, la deuxième question pour toi, est-ce que tu as récupéré la gouvernance de ton temps avec l'enseignement de la parole de Dieu? Deuxièmement, est-ce que l'enseignement de la parole de Dieu t'amène aussi à une meilleure gestion de ton temps, à une meilleure priorisation, si on peut dire, des choses dans ta vie, donc à une meilleure gestion du temps? Mais de surcroît à cela, puisque c'est faire un usage sage et sacré du temps qui nous est imparti, des opportunités qui se présentent devant nous. Donc, la parole de Dieu devrait nous amener, en troisième point, à consacrer de son temps à Dieu. Et j'enlèverai même la particule « de », à consacrer son temps à Dieu. Je répète, la parole de Dieu, et je prends juste une gorgée, la parole de Dieu devrait nous amener à consacrer notre temps à Dieu. Ça veut dire que peu importe où je suis, peu importe ce que je fais, peu importe l'activité dans laquelle je peux être impliqué à un moment précis, ce temps-là peut malgré tout être consacré à Dieu. Comment on le fait? Ben, le matin en me levant, sachant qu'on doit aller au boulot, on peut aussi prier au Seigneur, « Seigneur, tu vois la partie de temps que je vais consacrer à mon travail, à mon emploi. Donne-moi l'occasion, pendant cet emploi, d'être un digne représentant de ton royaume. Que ce soit par mes actions, mais que ce soit aussi par mes paroles. Donne-moi l'occasion aujourd'hui au travail de parler avec quelqu'un. Et ça peut être avec un supérieur, ça peut être avec un collègue, ça peut être avec quelqu'un qui vient requérir nos services. Ça peut être la personne avec qui on mange à midi ou là où on va se nourrir à midi. Mais de dire à Dieu, même dans cette journée de travail, je prie Seigneur que lorsque je serai occupé à travailler, que tu sois quand même dans mes pensées et que je puisse quand même utiliser ce temps pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume. C'est donc de dire à Dieu, peu importe la minute à laquelle tu me demanderas de travailler, que je sois disposé et disponible. Donc, les trois points concernant le temps. Un, la parole de Dieu, la parole reçue, les enseignements, les prédications, doivent nous amener à récupérer la gouvernance du temps. Je dois être maître de mon temps et non pas sujet de mon temps. Je dois être le dominateur sur le temps et non pas le dominer par rapport au temps. Deuxièmement, je dois mieux gérer mon temps. La parole de Dieu devrait m'amener à mieux gérer mon temps en priorisant ce qui est priorité aux yeux de Dieu. Et enfin, la parole de Dieu devrait me pousser, m'amener à consacrer mon temps à Dieu. Hier, j'avais une pensée qui me turlupinait, je pense que c'est le terme, qui n'arrêtait pas de revenir dans mon esprit. Et c'était, un jour on va se retrouver pour l'éternité avec lui. Et on va se rendre compte que tout le temps qu'on ne lui consacrait pas était futile. Le temps que je consacre à mes loisirs, et je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas avoir de loisirs, mais lorsqu'on va se retrouver devant sa présence, on va se rendre compte que une partie de rugby, pour moi qui aime le rugby, ou un match de boxe, c'était bien futile par rapport aux priorités de l'éternité. À un moment donné, on va se rendre compte lorsqu'on va être là-haut que une promenade en barque ou en canot, puisque l'été arrive, c'était bien futile par rapport à l'éternité. Mais on va se rendre compte aussi que le temps où on a fait passer le travail avant Jésus, le temps où on a fait passer nos besoins personnels avant Jésus, le temps où on a fait passer les choses de notre environnement avant Jésus, cela n'a aucun sens. Jésus serait supposé être la priorité numéro un de notre existence. Alors, lorsqu'on va arriver devant lui, on va voir effectivement la véracité de nos cœurs et on va voir chacune des occasions où autre chose a pris priorité sur Jésus. On va voir lorsque le travail, lorsque les objectifs professionnels étaient avant notre relation avec Jésus. On va voir lorsque notre relation avec notre époux ou notre épouse prenait préséance sur notre relation avec Jésus. On va voir lorsque notre relation avec nos amis, voire avec nos frères en la foi, a préséance ou avait préséance par rapport à notre relation avec Jésus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, toutes ces choses-là sont importantes. Et toutes ces choses-là, lorsqu'on les utilise et lorsqu'on les applique adéquatement, sont correctes. Mais toutes ces choses-là ne devraient jamais, ni dans le temps qu'on consacre, ni dans l'effort qu'on consacre, ni dans l'importance qu'on leur accorde, dépasser l'importance de notre relation avec Jésus. Alors, si effectivement Dieu est priorité numéro un dans notre vie, l'ensemble de ces autres choses devrait venir à la queue-leu-leu par la suite. Malheureusement, parfois on rétrograde Dieu un peu plus loin dans la liste de nos priorités, dans la liste de nos occupations. Alors, quelle est ta gestion du temps? Quelle est ta gestion des priorités? Et quel est le pourcentage de ton temps que tu consacres à Dieu? Dieu a-t-il le droit de t'interrompre durant le moment où tu fais la cuisine? Dieu peut-il t'interrompre pendant que tu es en train de regarder un film? Dieu peut-il interrompre ton sommeil pour te demander d'intercéder? Dieu peut-il interrompre tes vacances pour demander que tu ailles le servir pendant toute la période de tes vacances? Dieu peut-il interrompre tes objectifs pour te demander de changer ton calendrier et de changer ton agenda? La prédication devrait nous amener à considérer Dieu comme priorité numéro un de notre existence. Et il va nous dire « car les jours sont mauvais ». Et souvent, lorsqu'on regarde cela, on se dit « ah, ben ça veut dire que le temps de la fin est proche ». Racheter, on utilise souvent ce verset-là pour dire « racheter le temps parce que les temps sont mauvais » et on l'associe à la fin du temps. Mais le terme « jour » qui est utilisé ici, ça ne parle pas nécessairement de la fin du temps, de l'apocalypse à venir. Ça ne parle pas de l'imminence du retour de Jésus. Ce n'est pas de ça que ça parle. Le terme « jour », c'est le terme « chéméra ». Chéméra. H-E-M-E-R-A. Je répète, H-E-M-E-R-A. Et qui nous parle de cette période de temps entre le lever et le coucher du soleil. Chéméra, période de temps entre le lever et le coucher du soleil, voire même période de temps entre la naissance et la fin d'une vie et la mort. En fait, la notion qu'il y a dans chéméra, c'est cette période de temps dans laquelle nous travaillons. La période du lever au coucher, c'est cette période active, cette période d'activité pour le Seigneur ou d'activité dans notre vie, la journée de travail. Et lorsqu'on va dire qu'il est mauvais, poneros, P-O-N-E-R-O-S, P-O-N-E-R-O-S, on est en train de parler d'une période de temps entre le lever et le coucher du soleil qui serait plein de douleurs, qui serait plein d'ennuis, qui serait plein de difficultés, qui serait plein de périls, qui serait plein, une période de temps qui serait pleine de mesquinerie, de méchanceté ou de choses qui sont mal intentionnées. En fait, on est en train de dire que dans cette journée de travail, dans cette journée d'activité, il y a plein de choses qui vont venir pour contrecarrer ce à quoi cette journée est supposée servir. Lorsqu'on parle racheter le temps car les jours sont mauvais, on est en train de parler de cette journée qui nous est donnée pour travailler, de cette période qui nous est donnée pour travailler. Alors, la parole reçue doit nous amener à mieux gérer le temps que nous consacrons au travail de Dieu. Il y a des gens qui consacrent le dimanche au Seigneur, en disant, mais c'est la journée du Seigneur. Foncièrement, le sabbat devrait être le samedi. Mais dans la coutume chrétienne, on a bougé le sabbat juif vers le dimanche, qui est devenu un peu la journée du Seigneur dans la pratique de la plupart des chrétiens. Est-ce que tu donnes au Seigneur 2 heures le dimanche? Est-ce que le temps pleinement consacré à Dieu est strictement 2 heures dimanche matin? Est-ce que le temps que tu consacres à Dieu, c'est ces 2 heures du dimanche matin, plus la petite demi-heure quotidienne avec les bénédictions matinales, auxquelles viendrait peut-être s'ajouter le cours biblique du lundi soir, l'étude biblique du mercredi, voire la prière du vendredi? Dieu nous demande des comptes sur notre force, sur notre capacité à travailler et sur notre temps de travail. Donc la parole de Dieu devrait nous amener à mieux analyser le temps et le travail que nous consacrons à l'œuvre de Dieu. Dieu peut-il être satisfait du serviteur que tu es? Dieu peut-il être satisfait du temps que tu consacres à son travail? Peut-il être satisfait de la qualité de travail et de la qualité du temps que tu consacres à son œuvre? Ou est-ce que tout simplement lorsqu'on arrive à midi et que la prédication n'est pas encore terminée, c'est comme « Hey, j'ai déjà passé 2 heures ici, tu es en train de tarder, on s'en va. » Quelle est la qualité du temps que tu consacres non seulement à l'étude de la parole, non seulement à recevoir cette parole, mais aussi à mettre en pratique cette parole? Dieu devrait aussi discerner, la parole de Dieu devrait aussi nous inciter, puisqu'il nous dit de racheter le temps car les jours sont mauvais, donc on puisse être capable de discerner les aspects, je dirais, insidieux de notre conception du temps. Par rapport au temps, nous avons parfois des attitudes qui ne sont pas bonnes. On a parfois l'attitude de dire « il est trop tôt ». Donc, ce n'est pas encore le temps. Donc, je ne travaille pas pour l'instant. J'ai tel horaire et pour Dieu, j'ai casé Dieu dans telle case. Donc, il est trop tôt. Ou de regarder les choses et de se dire « ce n'est pas encore le temps de travailler, ce n'est pas encore le temps de témoigner aux gens, ce n'est pas encore le temps d'être clair et précis ». Face à mes collègues de travail, face à mes supérieurs au travail, pour leur parler de Jésus. Et de repousser cela à un meilleur temps, à un meilleur moment. La Bible nous dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. De profiter de toute occasion, favorable ou non. De prêcher en toute occasion, favorable ou non. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul temps qui est optimal pour le service de Dieu et c'est maintenant. Tu ne peux pas être trop tôt pour servir. Tu ne devrais pas être trop tard non plus pour servir. Tu devrais considérer le temps présent comme l'occasion parfaite pour servir Dieu. Mais certains vont se réfugier donc dans le côté trop tôt. Ah non, c'est trop tôt pour leur parler de Jésus. Je viens juste d'arriver. Sauf que tu ne sais pas ce qui va se passer dans la vie de ton prochain tout à l'heure. Tu ne sais pas si ton collègue de travail, tu le reverras demain matin. Tu ne sais pas si ton supérieur, tu le reverras demain matin. Il pourrait se retrouver à l'hôpital et ne jamais en sortir et tu aurais raté cette occasion de lui parler de Jésus et de marquer son éternité. Donc non, il n'est pas trop tôt pour consacrer du temps à Dieu. De surcroît à cela, d'autres vont dire « Non, il reste encore bien du temps. J'aurai encore l'occasion. » Le problème, c'est que tu ne sais pas si l'occasion va se représenter, si l'occasion va se repointer à l'horizon ou non. Encore là, tu quittes le travail ce soir en te disant « Demain matin, j'aurai probablement l'occasion de le faire. » Ou « Dans une semaine, on a une réunion et j'aurai à ce moment-là l'occasion de le faire. » Mais tu ne sais pas si la semaine va se terminer. Tu ne sais pas si tu vas arriver à la semaine suivante. Et tu ne sais pas si ces personnes-là vont être là la semaine suivante parce qu'ils ont peut-être un rendez-vous d'éternité qui est marqué avec Dieu. Et il y a des gens qui se réfugient pour ne pas parler, pour ne pas agir avec « il me reste encore trop de temps ». Et enfin, il y a la dernière catégorie qui dit « il est trop tard ». Il est trop tard pour dire ça. Il est trop tard pour faire cela. Il est trop tard pour revenir en arrière. Il est trop tard pour mieux faire. Il n'est jamais trop tard pour parler de Jésus. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si tu as le souffle de vie aujourd'hui, c'est que Dieu veut encore aujourd'hui t'utiliser. Même si tu t'es tu pendant les dernières années, même si tu n'as rien fait pendant les dernières années, parce que tu as le souffle de vie aujourd'hui, aujourd'hui est le jour du salut. Et aujourd'hui est l'occasion pour toi de prendre ton temps pour servir Dieu, d'utiliser ton temps pour servir Dieu. Lorsque je domine sur mon temps, lorsque je domine sur la facette temporelle de ma vie, j'utilise ce temps à bon escient pour le service de Dieu. J'espère que vous ne pourrez plus jamais relire ce verset en pensant qu'il parle simplement de la fin. Comme quoi ce verset-là est en train de dire on doit racheter le temps parce que la fin du monde arrive. C'est peut-être pas la fin du monde qui arrive, mais la fin de ta vie arrive. Aujourd'hui, tu es un jour plus près de la fin de ta vie que tu ne l'étais hier. En fait, à la fin de cette réunion, par rapport au début, tu seras à une demi-heure plus près de la fin de ta vie. À une demi-heure plus près de rendre des comptes à Dieu sur ce que tu auras fait avec ton temps. À la fin de cette journée, tu seras 24 heures plus près du moment où tu dois rencontrer Dieu et du moment où tu dois dire et rendre des comptes à Dieu par rapport à ta gestion du temps. Hier, tu avais encore 24 heures de plus qu'aujourd'hui. Et demain, tu auras 24 heures de moins que tu n'en avais ce matin en te réveillant. Et pour ce 24 heures, Dieu te demande des comptes. Il te demande des comptes sur tout ce qu'il te donne, sur tes habiletés, sur ton talent, sur les dons qu'il a placés en toi. Mais il te demande aussi des comptes à rendre par rapport au temps. Voilà pourquoi il te demande de racheter le temps. De racheter le temps parce qu'il y aura plein d'occasions dans cette période temporelle à travers lesquelles le temps voudra gouverner sur toi, à travers lesquelles tu auras des pièges dans ton agenda, des pièges dans ta gestion de tes priorités qui te garderont loin de l'objectif pour lequel Dieu t'a appelé à son service et Dieu t'appelle serviteur et servante. Un serviteur et une servante qui se font dire par le Seigneur, bon et fidèle serviteur, il y a non seulement une question de qualité, bon, mais il y a une question de pérennité lorsqu'il nous dit fidèle. La fidélité parle du temps dans lequel j'ai été fidèle à Dieu, dans lequel j'ai servi Dieu avec obstination, avec dévotion, avec dévouement. Est-ce que Dieu peut dire que tu es un bon serviteur? Peut-il dire effectivement que tu es un fidèle serviteur? La qualité de ton travail est une chose, le temps que tu y consacres en est une autre. Et pour ces deux notions, tu seras appelé en jugement. Pour ces deux notions, tu auras des comptes à rendre. Alors je prie que l'enseignement que tu viens de recevoir te permette de regarder ces quelques heures que tu as devant toi aujourd'hui, en disant, Seigneur, permets-moi d'être efficace pour toi, même lorsque je suis en train de faire autre chose. Peut-être que tu t'en vas au travail, tu as une charge technique, tu as des manipulations techniques à faire, et peut-être que tu te dis comment je vais le faire pendant que je suis en train de travailler avec mes mains. Prie, intercède, parle de Jésus à tes collègues autour de toi. Peut-être que tu te dis, ouais, mais j'ai des comptes à rendre, j'ai des calculs à faire, j'ai ci et cela à faire, mais tu vas quand même rencontrer du monde et tu peux quand même aussi intercéder et louer Dieu pendant ce temps-là et tu peux malgré tout parler de Jésus. Alors profite aujourd'hui de toute occasion, favorable ou non. Ça veut dire que tu deviens maître de ton temps lorsque tu fais ainsi, maître de l'agenda. Et ça veut dire que tu as récupéré la gouvernance sur le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que la parole reçue, la prédication, l'enseignement qu'on reçoit, doit nous amener à récupérer la gouvernance de notre temps et ne pas être nous, sujets ou esclaves du temps. Ça nous pousse à une meilleure gestion de notre temps. Lorsqu'on change nos priorités, lorsqu'on met nos priorités au diapason avec la pensée de Dieu, on gère mieux notre temps. Ça nous amène aussi à consacrer notre temps tout entier. Le temps qui est officiellement donné à Dieu et le temps même qui est consacré au travail, ce temps-là peut être rendu profitable pour Dieu lorsque l'ensemble de notre temps lui est consacré. La parole reçue, enfin, doit nous amener à analyser le temps et le travail que nous consacrons à l'œuvre de Dieu. Quel est le temps vraiment que je consacre à l'œuvre de Dieu? Quel est le temps que je consacre à ma fonction de serviteur de Dieu? À ma fonction de servante de Dieu? Et m'amener à discerner tous ces pièges qui se mettent devant moi. Pièges au niveau de la pensée, au niveau des activités qui viennent devant moi pour voler à Dieu le temps qui devrait lui être consacré. Que ce soit le Canadien qui s'en va en série éliminatoire s'ils y vont, que ce soit le club de football de Montréal qui joue des matchs, que ce soit le cours de poterie auquel je peux être inscrit, que ce soit Netflix ou les autres passerelles de vidéos auxquelles je peux être abonné, qu'est-ce qui vient voler à Dieu le temps précieux de mon service? Peut-il dire que la qualité de mon service y est? Peut-il dire que le temps de mon service y est? Alors voilà ce qu'on avait pour ce matin. On va prier. Seigneur, au tout début de cette rencontre, on a prié en disant que ta parole était véridique, que ta parole était encore la source d'instruction pour nous. Et cette parole aujourd'hui nous parle du temps que nous consacrons à ton travail. Et comme quoi, Seigneur, plus nous recevons ton enseignement, plus notre temps devrait être dévoué, devrait être voué à toi. Plus tu devrais être la priorité numéro un de notre existence. Pardon, Seigneur, pour toutes ces occasions où nous reprenons le contrôle, où nous donnons en fait le contrôle de notre temps à autre chose, à d'autres activités, à d'autres priorités. Seigneur, plus on y pense et plus on se rend compte qu'il est tout à fait absurde que tu ne sois pas constamment, toujours, la priorité 1 de notre existence. La priorité numéro 1 de notre existence. Dans l'éternité, Seigneur, toutes les autres choses auquel on aura consacré notre temps, auront, Seigneur, l'apparence tellement futile et insensée. Alors je prie, Seigneur, pour moi, mais je prie aussi pour ma sœur et pour mon frère, que ce matin, Seigneur, nous puissions prêcher, annoncer ta parole en toute occasion, favorable ou non. Nous ne sommes pas trop tôt. Nous ne sommes pas trop tard. Nous reprenons le contrôle de notre présent, le contrôle de notre temps, et nous assujettissons ce temps à ton service, à l'avancement de ton royaume, à notre statut de serviteur et de servante de l'Éternel. Ce statut n'est pas mon deuxième statut, n'est pas mon troisième statut, n'est pas un aparté dans mon agenda ou dans mon temps. Ce statut de serviteur de Dieu est mon premier et plus important statut. Alors je prie, Seigneur, que ma gestion du temps et mon occupation aujourd'hui démontrent effectivement que tu es la priorité numéro un dans ma vie, dans la vie de ma sœur et dans la vie de mon frère. Nous t'avons prié pour ta gloire et ton honneur, Jésus. Amen. Alors, laissez-moi saluer quelques personnes qui se seraient jointes à nous depuis tout à l'heure. Je remonte un peu. Voir qui s'est joint. Je pense que la dernière personne que j'ai saluée, c'était Jane. Donc, bonjour Babette, bonjour Andreas, bonjour Denise, bonjour Gérard, bonjour Charlotte. Bonjour Tina, bonjour Christophe, bonjour aux enfants. Bonjour Natacha, je ne sais pas si ta maman est avec nous ce matin encore, mais que Dieu te bénisse, toi, Indirène, la petite famille, et aussi la famille de ta maman. Que Dieu vous bénisse tous. Bonjour à la sœur Argelia. Bonjour à Daniel. Bonjour à Lucie. Bonjour à Cynthia. Bonjour à Diana, bonjour à Sylvia, bonjour à Ramon, Evelyne, bonjour à Andrés, Samantha, et je crois que c'est tout pour ce matin. Alors que Dieu vous bénisse, on se retrouve demain matin, même heure, même poste, 8h18 par là je me connecte et puis on commence l'ensemble ou notre étude plutôt vers 8h30. Donc à demain matin, que Dieu vous bénisse et puis rachetez le temps. Soyez le maître de votre temps aujourd'hui. Récupérez la gouvernance de votre temps et utilisez bien votre temps pour le Seigneur aujourd'hui. Bonne journée à tous.